nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour. Depuis 1997, La main à la pâte, opération lancée par Georges Charpak, Pierre Léna et Yves Quéré, tous les trois de l'Académie des sciences, La main à la pâte donc récompense le travail des élèves de l'école primaire pour leurs activités scientifiques expérimentales. Depuis 2001, l'Académie décerne également des prix Mémoire professionnelle qui consacrent l'importance de l'enseignement des sciences dans la formation des futurs professeurs des écoles. C'est sur ce dernier point que nous allons nous focaliser puisque nous recevons le lauréat, ou plutôt lauréate, du Mémoire professionnel de la main à la pâte 2008, prix remis le 3 février 2009 en grande salle des séances à l'Institut de France. Magali Mansillon, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation au studio de Canal Académie. Vous allez recevoir dans quelques instants, dans quelques minutes, le prix. Vous venez nous voir avant de le recevoir. Je précise tout de suite que vous avez travaillé en binôme sur ce mémoire professionnel avec Laetitia Sarah et que ce prix vous récompense conjointement. Vous êtes donc dans le studio de Canal Académie, la porte-parole de ce travail en commun. Votre thème consistait à construire une carte animée au cycle 3. C'est-à-dire CM1, CM2, pourquoi avoir fait ce choix de réaliser votre mémoire sur ce domaine de la technologie ?
Alors d'abord, merci à vous de m'avoir invité déjà. Et ensuite, moi j'ai une formation scientifique et mon mémoire, c'est pour ça qu'à la base j'ai voulu le cerner plus sur les sciences. Et ensuite, les cartes animées parce que la mécanique, tout ce qui est mouvement, ça m'a posé problème quand j'ai fait mes études, surtout dans la physique, et je me suis dit qu'on pouvait déjà amorcer un petit peu ce travail avec de plus jeunes enfants, et effectivement les cartes animées c'est un bon moyen de motiver les élèves.
Alors, dans votre mémoire, puisque bien sûr vous m'avez envoyé votre mémoire, j'ai pu le lire avec attention, vous citez Jean Hébrard. Alors je vais le citer à mon tour et j'espère que vous pourrez nous en dire un peu plus. Jean Hébrard qui pense prioritaire de permettre à l'enfant de vivre des expériences de découverte du monde qui l'entoure, bien sûr, donc de découverte du monde qui l'entoure, de découverte de phénomènes qu'il peut produire et reproduire. Alors j'imagine que l'intérêt de votre travail, c'était l'expérimentation.
Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, certains élèves continuent à chercher chez eux avec leurs parents, ils mettaient tout le monde à contribution et certains arrivaient avec des essais de cartes, voire même la carte déjà construite avant que le système ne soit découvert.
Alors ce principe d'expérimentation, il est valable dans la technologie puisque là il s'agit de construire, de faire un travail d'enquête. Est-ce que ce travail d'expérimentation est valable aussi, je m'éloigne un tout petit peu du sujet, est valable aussi dans l'enseignement des fondamentaux ? Par exemple, les mathématiques ou le français.
Disons qu'on peut procéder, oui. Les élèves peuvent, par expérience, entre guillemets, des expériences, des essais de calcul, je prends le calcul, essayer de construire certaines choses, ou même en géométrie, ça m'arrive de leur poser des problèmes. Je leur ai posé le problème du Paris-Dakar et il fallait qu'ils retracent les roues. Donc ça, c'était pour introduire les droites parallèles. Donc oui, on peut. On ne peut pas faire ça avec tout, bien sûr, et des fois où on doit apporter nous-mêmes les notions.
Dans votre introduction à votre mémoire, je vous cite encore, l'enseignant doit à travers cette discipline, donc qu'est la science et en l'occurrence la technologie dans le cadre des cartes animées, éveiller la curiosité des élèves pour ensuite les mettre en état de recherche. L'enseignant ne livre pas les connaissances mais invite ses élèves à les découvrir.
Tout à fait.
J'imagine que ça doit être très dur de ne pas donner toutes les clés à ses élèves.
Oui, souvent ils se disent, mes maîtresses, ton problème, il est impossible, c'est pas possible, on ne trouvera jamais, il faut que tu nous dises. Et quand ils prennent l'habitude de... Parce que moi, j'en donne souvent en sciences, je procède comme ça. Et à force, bon, bah, ils ne se posent plus la question, ils cherchent. Donc au début, c'est vrai que c'est difficile, ils n'ont pas l'habitude de travailler comme ça. Pour eux, bon, bah, on attend que les notions leur soient données.
Voilà. Et pour les professeurs, les jeunes professeurs des écoles, j'imagine aussi que ça doit être difficile de ne pas tout donner d'un coup.
Non, moi j'aime bien les voir chercher. Après, bon, ça dépend des gens, mais moi j'aime bien les voir chercher, voir réfléchir. Au moins, ils sont dans l'action, ils ne sont pas passifs à attendre que ça vienne.
Alors avant d'en venir plus en détail sur sa construction, la modélisation, la construction de cette carte animée, je voulais vous poser une question sur justement l'enseignement des sciences à l'école primaire. C'est un enseignement, on va dire, je ne sais pas, obligatoire ou simplement c'est les professeurs qui font le choix de travailler sur un petit module de sciences en cycle 3, par exemple ?
Alors, les sciences sont bien évidemment au programme. On a des thèmes qu'on doit respecter. Après, ce sont les choix des enseignants, le choix de l'équipe de cycle aussi, de dire, si on fait l'astronomie, vous allez commencer en CE2 par faire la Terre, le système solaire, ensuite on va voir la Lune, et voilà, ça se décide. Mais c'est effectivement dans les programmes.
Mais après, le choix, le thème est arbitraire, c'est-à-dire que vous décidez de parler, par exemple, pendant une année d'astronomie, la deuxième année...
Enfin, arbitraire. On a des thèmes qu'on doit respecter, on va pas... Mais après, il y a des petites choses qu'on peut imaginer, nous, oui.
Venons-en donc à cette carte animée. Elle est construite donc avec plusieurs objets, un disque, une bielle, un piston. Vous pourriez nous en dire plus sur cette petite carte initiale qu'ils ont pu observer, vos élèves ?
Alors, la carte initiale qu'ils ont observée, en fait, je ne sais pas si je l'avais bien choisie, mais le devant de la carte, c'était un magicien. Et quand on faisait tourner la manivelle, ça faisait monter et sortir un lapin du chapeau. Donc, bon, ils se sont dit, c'est de la magie, on ne trouvera jamais. Donc cette carte, la seule chose qu'ils voyaient, c'est la carte, la roue qui tournait, puisque je la faisais tourner, et le piston qui montait, qui descendait. Voilà.
Donc ils ne voyaient pas encore les mécanismes derrière. Donc la première partie était de deviner ce qui se cachait derrière.
Absolument, oui.
Et donc, bien sûr, vous avez organisé ce travail en plusieurs séquences, en 5 séquences, et tout le travail était de deviner petit à petit comment ce piston allait être déplacé, ou en tout cas, voilà, déplacé. Vous aviez, parce que donc, vous avez travaillé avec Laetitia Sarah, vous aviez une classe de CM1, CM2, dans une situation, vous le dites dans votre mémoire, donc c'est pour ça que je le redis, située à la campagne, et votre collègue avait aussi également une classe de CM1, CM2, elle, plutôt dans un milieu urbain. Quelles ont été vos différences observées au moment de l'observation, la modélisation de cette carte animée ?
Disons que les élèves que j'avais ont plus facilement proposé des choses au départ. Ils ont eu des idées, je ne sais pas forcément d'où ça vient, mais ils se sont dit « Ah, c'est peut-être comme ça » ou « comme tel objet ». Donc ils ont eu beaucoup d'idées, beaucoup de propositions initiales. Alors qu'elle, dans sa classe, c'était beaucoup plus réduit comme proposition.
C'était un simple hasard ou est-ce qu'on l'observe régulièrement, je ne sais pas, d'avoir un éveil en quelque sorte, peut-être plus important dans votre classe ?
C'est peut-être possible.
En milieu urbain.
Tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, cette année, je suis de nouveau dans un coin qui est plutôt de campagne, c'est pas vraiment la ville, et j'ai reposé ce problème-là, et c'est vrai que j'ai eu différentes, je sais plus, 7 propositions initiales, je crois, donc il y avait beaucoup de propositions.
Vos élèves, vous l'expliquez dans votre mémoire, donc faisaient beaucoup de propositions, étaient très éveillés. La différence par rapport à l'autre groupe, c'est qu'ils étaient peut-être, ils travaillaient peut-être plus individuellement que la classe de votre collègue Laetitia Sarah, pour lequel cette classe-là avait peut-être plus de difficultés, mais travaillait en groupe.
Je les ai fait travailler en groupe, mais c'est vrai que parfois les élèves ont envie de construire pour eux. Donc ils ont du mal à s'entendre, ils se disent « mais il n'a pas choisi la même chose que moi, pourquoi je serais d'accord avec lui ?» Ils ont du mal à se dire « on va faire un compromis des deux constructions ».
Quelles ont été vos heureuses surprises et, à contrario, les difficultés que vous avez rencontrées avec vos élèves, qui étaient apparemment plutôt très intéressés par votre projet ?
Oui, j'ai eu une difficulté, c'est ensuite quand on a eu fini de découvrir le système, ils savaient qu'il y avait la bielle, je leur ai fait observer des photos d'objets. J'ai apporté aussi d'autres objets et ils ont eu beaucoup de mal à voir où pouvait se trouver ce système-là. Par exemple, j'avais amené un fouet à manivelle, mais qui n'est pas du tout composé du système bielle-manivelle. Et on a passé 3 quarts d'heure à essayer de comprendre que ce n'était pas le système bielle-manivelle. Donc ça a été difficile.
D'accord, l'application à d'autres objets n'était pas forcément une évidence. Et alors, les heureuses surprises, c'était de voir qu'en fait, vos élèves étaient tout à fait aptes à pouvoir répondre à cette question.
Et de voir aussi eux-mêmes se dire, finalement, on a réussi, on a trouvé, on en est capable, on n'a pas besoin de la maîtresse.
Dans votre mémoire, vous posez la question suivante. Les moyens pédagogiques et didactiques dont dispose l'enseignant permettent-ils de conduire les élèves à comprendre et expliquer un système compliqué ? Alors, quelle est votre réponse et est-ce qu'elle diffère de votre collègue ?
Non, je pense qu'on a été plutôt d'accord. Même si les résultats n'ont pas forcément été les mêmes dans les deux classes, on s'est bien rendu compte qu'il y avait besoin de plusieurs moyens. On a modélisé avec du carton, modélisé avec des pièces qu'on pouvait agencer ensemble, qui faisaient plus une structure en trois dimensions. On a essayé avec des documents. On a cherché tous les moyens possibles pour répondre à ce problème. Donc on a à peu près, il me semble, je ne voudrais pas parler en son nom, mais on avait à peu près la même réponse, si réponse il y a à cette question.
À savoir que donc, les moyens pédagogiques dont vous disposiez étaient suffisants pour travailler ?
Suffisants, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils nous ont bien aidés. Il y en a peut-être d'autres, certainement même.
Dans la conclusion de votre mémoire, vous expliquez qu'après cette expérience, vous ne mèneriez pas les choses de la même manière, à savoir faire un travail peut-être plus approfondi sur la schématisation.
Oui, parce que nos élèves, il me semble surtout ceux de ma collègue, avaient du mal à schématiser. Du coup, le respect des proportions n'était pas gardé. Alors après, pour construire à partir d'une schématisation, c'est beaucoup plus difficile.
Et donc, on a bien beaucoup parlé, bien sûr, des enfants, puisque c'était eux les principaux concernés. Quels ont été les retours des parents? Puisqu'on sait qu'à cet âge-là, les parents aussi, derrière, participent beaucoup, en général.
Oui, oui. Ben, certains parents ont aidé leurs enfants à essayer de trouver. Alors, je ne sais pas s'ils connaissaient la réponse, je pense. Sinon, je sais que certains parents étaient contents parce que l'enfant revient très content de l'école, avec des idées plein la tête, à essayer de chercher, continuer à chercher, essayer d'observer des objets. Est-ce que ça va m'aider ou pas? Donc, j'ai eu quelques retours, oui.
Dans votre mémoire, vous citez Georges Charpak. Oui. J'imagine que vous connaissiez le principe de la main à la pâte au moment où vous avez réalisé votre mémoire. Oui. Et donc, que vous adhériez justement au principe de l'application des sciences à l'école primaire.
Oui.
Donc, vous allez poursuivre dans ce domaine.
Je continue déjà, je continue.
Avec toujours ce principe de carte animée et ensuite l'étendre à d'autres choses. Comme quoi, par exemple?
Par exemple, j'ai construit une maquette de ballast de sous-marin. Et on avait travaillé un petit peu sur l'air avant. Et je leur ai demandé comment est-ce que j'allais faire pour faire couler mon sous-marin ou le faire remonter. Voilà, par exemple, c'est un exemple. Mais toujours, je commence toujours mes séquences de sciences par un problème. Et ils doivent réfléchir à ce problème. Je ne vais pas leur dire, bon, ben, ça fait ceci ou cela.
Et j'imagine donc, bien sûr, plusieurs séquences étalées sur toute l'année.
Oui. Oui, oui, bien sûr.
5 séquences, en l'occurrence, pour la carte animée.
À peu près, oui, en général.
Je vous remercie, Magali Mansignon. Je rappelle que vous venez de recevoir le prix Mémoire professionnelle de la main à la pâte, prix Mémoire professionnelle 2008, mais remis tout début février 2009. Prix donc conjointement avec Laetitia Sarah, votre collègue, pour votre mémoire consacrée à la construction de cartes animées en cycle 3. Eh bien, je vous remercie beaucoup.
Merci.
Et puis, félicitations pour ce prix de la main à la pâte.
Thank you.